Bienvenue dans l'épisode numéro 55 de MindFit Coaching. Comment retrouver son pouvoir après une relation à comportement toxique? Un témoignage de Tommy Bouchard. Salut à toi et bienvenue sur MindFit Coaching, ta séance de croissance personnelle. Je m'appelle Anaïs Sersoub, je suis thérapeute en relation d'aide, coach en croissance personnelle et surtout une passionnée de développement personnel. Est-ce que tu as envie que ta vie soit plus alignée et plus épanouissante? Je te confirme, t'es à bonne place. Dans mes podcasts, je vais t'apporter une nouvelle vision sur toi. Je vais te donner des conseils et des outils qui vont transformer ta vie. Donc si t'es prêt ou prête à reprendre le pouvoir sur ta vie, je te laisse écouter le prochain épisode. Donc, bonsoir à vous. Ce soir, c'est un épisode très spécial de mon podcast MindFit Coaching parce que j'ai un invité spécial avec moi, Tommy, que je vais présenter tout à l'heure. Puis, avant de commencer l'épisode, en fait, j'ai envie d'expliquer pourquoi c'est spécial. C'est un épisode qui va parler des relations toxiques. Puis, au-delà des relations toxiques, c'est comment on sort d'une relation toxique. Puis, ça me touche beaucoup parce que moi-même, j'ai eu plusieurs relations toxiques dans ma vie et j'ai la forte croyance que ça peut nous construire, ça peut être transformé comme un moteur, mais ce n'est pas une fatalité. Et il y a quelques semaines, même quelques mois, j'avais demandé sur mes réseaux sociaux une personne qui aimerait partager dans mon épisode son histoire de vie par rapport à une relation toxique, puis surtout comment se sortir d'une relation toxique. Puis Tommy, en fait, je te connais à travers le programme Elite, parce que vous le savez, moi je fais du coaching à travers le programme Élite de Charles Côté de Drôlement Inspirant. Et j'ai la chance et l'honneur de rencontrer des personnes merveilleuses comme Tommy. Donc, je savais que ton histoire de vie allait être percutante parce que tu avais un peu brièvement parlé de ta relation toxique. Puis justement, Tommy, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui tu es?
Oui, avec plaisir. Bien, tout d'abord, merci beaucoup Anaïs. C'est tout un éloge. Écoute, c'est même un honneur d'être à ton podcast, qui est moi-même un auditeur. Donc, j'ai 30 ans. Effectivement, comme tu l'as mentionné, à travers de ma vie, je pense ne pas être le seul, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de relations qui ont été toxiques. J'ai en fait à croire que je courais après ça littéralement. Fait que ça va être curieux d'en discuter ensemble. Je suis aussi quelqu'un qui est, par rapport, on va en discuter évidemment dans le podcast, parce que c'est une étape importante du développement, mais je suis quelqu'un qui a découvert la croissance personnelle à un très jeune âge. Je dirais qu'au début, c'était très abstrait la façon que ça a été approché à moi, mais c'est quelque chose avec lequel je chemine toujours aujourd'hui, évidemment, qui a eu un gros impact dans ma vie, surtout au niveau relationnel.
Mm-hmm. Donc toi, en fait, tu donnes un premier indice de comment tu t'en es sorti, mais c'est le développement personnel, en tout cas, il y a eu un impact fort dans ta vie. Puis écoute, ça résonne tellement pour moi parce que le développement personnel a changé ma vie aussi. Et justement, dans les relations toxiques que j'ai vécues, là où je suis le plus fière aujourd'hui, c'est que ça a créé le plus beau métier que je fais, celui de coach, d'aider les gens, parce que j'ai construit du beau à travers ça. Donc effectivement, le développement personnel, c'est important. Justement, on va aller dans le vif du sujet. Hein.
Allons-y,
Tommy. Parle-nous en fait de ta première relation toxique. La première relation, puis tu sais, quand je dis relation toxique, on va plutôt dire, je vais nuancer tout de suite, la relation à comportement toxique. C'était laquelle pour toi?
Ben en fait, il y a eu deux relations. Il y a eu la première relation amoureuse que j'ai eue avec une copine, mais avant ça, ce qui m'amenait à des relations toxiques, ça a été, et là, ça a demandé, avant, ça définissait ma vie, ce que je vais dire là, plus aujourd'hui, mm-hmm. heureusement, mais c'est ma mère biologique. Ma mère biologique, j'ai eu une enfance très difficile, tant psychologiquement que physiquement, je subissais de la souffrance. Et ce que ça a eu comme effet, ça a eu toutes sortes de conséquences. La première, ça a été souvent, on dit souvent que nos blessures remontent à l'enfance. C'est souvent là où les gens, ça c'est vraiment mon avis personnel, mais là où les gens, quand tu essaies de t'ouvrir à une personne, que là, tu ramènes ça à l'enfance, ceux qui ne sont pas, on va dire, amateurs de développement personnel décrochent. Parce que ça fait très mal de retourner dans le vif du sujet. Et c'est souvent là où les gens, dans le processus de guérison, ont de la difficulté. C'est simplement de réussir à s'immiscer à cette époque-là de ta vie, à retourner là. C'est ton travail à toi de le faire, c'est pas celui-là des autres. Comme moi, c'est là où ça a découlé toutes mes relations toxiques, parce que j'en ai eu malheureusement plusieurs. Et ma première relation amoureuse, je devais avoir 16 ans. Pour moi, évidemment, dans la relation amoureuse, quand tu as 16 ans, il y a une relation sexuelle. Et pour moi, c'était très important d'attendre. Je croyais à l'amour absolu à 16 ans. Donc, vous comprendrez que quand je suis tombé amoureux, pour moi, j'allais tout faire. Que je sois heureux ou pas heureux, j'allais subir. Parce que pour moi, amour était beaucoup de douleur, ça. Fait que pour moi, subir faisait partie de la
game. C'était ta vision de l'amour que tu avais. Puis justement, ce que je trouve intéressant quand on a eu un parent toxique, parce que généralement, c'est ça, quand on a des relations toxiques, effectivement, tu as dit, les blessures viennent de l'enfance, c'est quelque chose que tout le monde sait quand même plus ou moins, qu'on a des blessures de l'enfance. Mais quand on a eu un parent ou des parents toxiques, moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est de m'en rendre compte. Parce que vu que c'était la normalité, je pensais que c'était comme ça, tu sais, un parent, c'est comme ça qu'il aimait un enfant, à la base. Toi, concernant ta mère puis tout ce que tu as vécu, à quel moment tu peux dire que hey, tu te dis, c'est bizarre ça, c'est bizarre ce qui se passe là avec ma mère?
C'était très jeune parce que la violence physique était partie intégrante de mon enfance avec mon petit frère. Je ne parlais pas de mon petit frère, je regardais vraiment le côté personnel à moi, par respect pour lui, mais parce que je n'ai pas demandé son accord. Mes parents étaient séparés. Alors, j'ai 6 ans, ils se sont séparés. Donc, pour moi, la première relation importante était celle de mes parents, que j'observais de très près. Et la relation ressemblait à beaucoup de chicane, chicane, chicane. Ça crie le soir, je me réveillais, papa, maman, arrêtez de crier, s'il vous plaît, je veux dormir. Puis, fait que ça ressemblait beaucoup à ça. Je n'ai pas connu mes parents très amoureux dans les premiers segments de ma vie et les quelques souvenirs qui me restent, bien entendu. Par la suite, ma mère a quitté mon père. Pour un autre homme. Là, j'ai eu, au niveau des relations, là, je vais essayer de le faire court, mais ma mère a connu plusieurs hommes par la suite. Évidemment, comme beaucoup d'enfants, on vit très mal la séparation de nos parents. C'est difficile, propre à chacun. Moi, les hommes qui rentraient dans ma vie, je peux vous dire que c'était une confrontation pour moi. Même si certains étaient très bons avec moi, vous agissez un peu comme un père. J'avais un père, il n'était pas question que tu prennes la place de mon père. Puis, j'en voulais à ma mère de ne pas prendre sa place de mère. Elle laissait un homme s'occuper de moi à la place de elle. Je le voyais comme ça, à très jeune âge. Mm-hmm. La violence physique s'est fait sentir vers l'âge de 7 ans, ouais, un peu après la séparation. Psychologique, évidemment, par le fait même. Et le bal a commencé par la suite. Là. Vous imaginerez que ma confiance en moi a atteint des bas-fonds. Malheureusement, j'ai appris avec le temps que je n'étais pas toute seule à vivre ça. Par contre, étant enfant, dans ma première relation amoureuse, celle que j'aime le plus au monde, c'est ma mère. Ce qui est terrorisant, c'est que quand tu vis des choses comme ça quand tu es enfant, tu as beau te faire battre, te faire les pires atrocités, tu aimes ton parent. Ouais. Tu aimes ton parent pareil. Tu l'aimes. Mm-hmm. Tu sais que c'est pas sain ce qui se passe. Tu le ressens au fond de toi. Pour vous dire, je fais un exemple, puis je veux pas faire pitié, c'est vraiment pas ça le but. Là. Mais c'est vraiment pour que ceux qui écoutent se rendent compte que vous n'êtes pas tout seul. Pour moi, ça a été déclencheur d'un jour plus tard. Là. Ça veut dire que je n'étais pas tout seul. Mais mes rêves étaient en noir et blanc parce que je rêvais de tuer des gens. Je rêvais que je tuais des gens tout simplement. C'est pour m'en sortir un jour, j'allais commettre des atrocités. C'était aussi simple que ça. C'est comme
Il y
ça
y
que je voyais.
Beaucoup de colère, en fait.
Ah, c'était terrible. Et pourtant, quand j'allais à l'école, je me battais jamais. Je n'ai jamais fait mal à qui que ce soit, peut-être avec des paroles, on est des enfants, mais jamais volontairement, de façon agressive. J'ai encore de la difficulté aujourd'hui à comprendre comment je comprends un peu, peut-être avec un peu de réflexion, mais malgré toute la violence que je subissais, je n'en commettais pas. Pour moi, c'était...
C'était dans tes rêves, en fait, Tommy.
Comment?
Dans tes rêves, tu laissais sortir la colère. Parce que dans ta vie, tu ne le faisais pas, en fait.
Oui, puis dès l'âge de 10 ans, je pensais au suicide. Je n'ai pas tenté le suicide, mais je me disais que si ça ne change pas, j'endurerai pas ça. C'est pas vrai. C'est le suicide qui m'attend. Je t'écœurais. Mais ce qui m'empêchait de me suicider et d'aller plus loin que la pensée, c'était que j'avais mon petit frère, puis que si je n'étais plus là, mon petit frère était tout seul. Évidemment, il y avait mon père. Mon père a une partie très importante dans ma vie. Mon père, je le voyais en fin de semaine sur deux, donc vous comprendrez qu'il était présent lorsqu'il pouvait. Il était conscient de ce qui se passait à la maison. La justice n'était pas la même au Québec il y a 20 ans de cela. Heureusement, ça change. Il y a encore du travail à faire, mais ça change. Donc, il a essayé très fort de nous récupérer, mais en vain. Je vous dirais que moi, l'amour, je ne rêvais pas à ça, je ne pensais pas à ça. Avant de faire le podcast, je réfléchissais. Puis une chose que je me souviens, qui est importante pour moi, parce que ça l'impact. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, puis je me suis rappelé ce que je me disais quand j'avais, même malgré toute cette colère-là. Souvent, si on joue, si un jour je rencontrerais un génie, là, puis j'aurais trois vœux, moi, j'en avais qu'un seul. Je rêvais pas d'argent. Je rêvais pas d'être champion du monde. Je voulais avoir une maison, une famille, puis être heureux. C'est tout ce que je voulais. Mm-hmm. Parce que c'était pour moi la chose la plus précieuse au monde. J'en avais pas. Ben, j'avais un semblant, j'avais mon père, mon frère, puis pour moi, c'était ça l'idéal d'une famille. Puis je voyais bien ce qui se passait à la maison, que quand j'allais chez mes amis, pourquoi que moi, je mange une volée pour ça? Pourquoi je suis enfermé dans ma chambre pendant c'est une ça. Semaine entière? Parce que j'ai mis ma roue de bicycle chez le voisin. Peu importe, je ne suis pas là pour juger les méthodes des parents, mais il y avait des extrémités dans tout ce qui se passait chez nous.
J'étais c'est intéressant. Conscient. Je te coupe. Excuse-moi, Tommy, c'est intéressant ce que tu amènes dans le côté de... Justement, je disais, c'est difficile quand tu es... Et encore, toi, tu as eu des parents séparés. Donc déjà, tu pouvais peut-être voir le décalage entre les deux.
Et non.
Mais malgré tout, comme tu dis, on a un amour inconditionnel pour son parent. Donc là, il y a plein de blocages, de mécanismes de défense qui se mettent en place pour justement vivre avec ça, survivre avec ça. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est tu comparais à un moment donné, tu es arrivé dans ta vie où tu dis, oh, je vais chez des amis, c'est bizarre, c'est pas comme chez moi. Puis c'est un peu démesuré ce qui se passe chez moi. Puis moi aussi, ça, c'est quelque chose qui m'a aidé, la comparaison avec les autres, qui m'a aidé à comprendre que c'était toxique. Donc, j'aime vraiment ça, ce que t'amène, la partie que tu savais au fond de ton cœur, mais il y a quelque chose qui t'empêchait quand même de dire, tu sais, t'aimes ta mère, etc.
Oui, puis il y avait de quoi super important pour moi, c'est la projection, en fait. Quand j'avais 10 ans, je lisais beaucoup de mangas, entre autres Dragon Ball, pour ceux qui connaissent Son Goku, le personnage emblématique. Ouais. Lui avait une capacité assez spéciale qui était de son sang, un Saiyan. Quand tu frôles la mort, il redevenait plus fort. Évidemment, je subissais beaucoup de souffrances ou j'en venais à la limite de penser que je préfère quitter ce monde ou aller de l'avant. Je me souvenais de Son Goku et je me suis tellement projeté dans ce personnage-là de me dire je vais être comme mon héros, je vais être comme si, que j'ai fini par surmonter ces épreuves-là. Je le voyais tout simplement comme ça. J'ai fini par voir chacune des obstacles qui m'arrivaient de souffrance comme parfait, tu veux, voilà un ennemi à combattre, aussi simple que ça. Je le voyais mm-hmm. comme ça. Évidemment, ce qui m'a sauvé la vie va devenir aussi un double tranchant plus tard. Dans mes relations toxiques que j'ai eues, justement, ça, je vais en parler tout à l'heure. J'ai eu toute cette partie d'enfance-là. Ensuite de ça, j'ai réussi à venir vivre avec mon père en Montérégie. Okay. Et donc, lorsque je suis arrivé en Montérégie, j'ai recommencé ma vie à zéro. Mais là, quand on dit à zéro, c'est que je ne connais plus personne. J'ai mon père, mon petit frère et c'est tout. Je n'ai plus personne dans mon entourage. Je suis à 5 heures de route. On recommence à zéro. Je n'ai pas le même accent que les autres dans ma région. C'est complètement mm-hmm. nouveau. C'est une chance de recommencer à zéro, en fait. De dire, tiens, Tommy, celui qui était gêné, qui avait peur de parler aux gens, qui n'avait pas comment, laisse-le derrière. Évidemment, c'est une utopie d'imaginer que parce que tu déménages, tout change, tu traînes ton passé avec toi. Mais à ce moment-là, ce n'est pas ce que je pensais. Je me suis dit, tiens, je vais être une nouvelle personne. Je vais être quelqu'un d'autre.
Ça donnait de l'espoir, en fait. Ça donnait de l'espoir.
Un caméléon.
Exact. Puis justement, ça m'amène à ma prochaine question, Tommy. D'après toi, c'est quoi les impacts, on va dire les désavantages? On va parler de ça, les désavantages d'avoir eu la relation toxique à comportement toxique avec ta mère. Qu'est-ce que ça a créé de...
C'est que ça a créé un vide presque infini en moi. Même aujourd'hui, je dois être très vigilant face à ça, un manque, un vide d'affection. Dans tes podcasts, tu en parles. Chez moi, ça crée un système d'abandonné que déserteur. Moi, abandonné, ouais. Je me suis senti abandonné. C'était très, 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 très fort chez moi. Je suis devenu, une certaine période de ma vie, très possessif aussi. J'étais jaloux. Jaloux. Dans mon jeune âge, autour de 16-17 ans, dans mes premières relations, j'étais jaloux. J'étais en compétition presque, on va dire, avec tous les autres. Je regardais les autres garçons, qu'est-ce qui pouvait mm-hmm. lui plaire, quoi que ce soit, ma blonde à l'époque. J'étais très jaloux. Heureusement, ça aussi, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. L'agressivité. Ça, c'est la partie beaucoup plus difficile chez moi à admettre au niveau de l'impulsivité et de la colère. Je suis quelqu'un qui est de nature doux, qui est gentil, qui est jovial, qui aime faire rire les gens. Mais j'ai une partie colère, j'ai une partie émotion impulsive que je sens venir heureusement. Étant jeune, avoir tellement vécu cette émotion-là, je la sens venir, mais j'ai été plusieurs années à en avoir peur. J'avais développé ce que moi j'appelais à l'époque J'appelle encore ça un peu aujourd'hui mon cavalier noir. Moi, je l'appelais comme ça. Mon cavalier noir parce que c'était la partie sombre de moi qui m'accompagnait, même dans mes relations amoureuses. Et évidemment, je n'étais pas un homme agressif, mes conjoints. Ce n'était pas ça. Mais c'est en dedans. J'avais peur de ce qui pouvait sortir. Si je lâche la bride à lui, qu'est-ce que je peux commettre? Si un gars à l'école m'écœure, il suffisait que je vienne juste des noirs, là, dire « touche-moi encore », et ça suffisait à arrêter un conflit immédiat. Je ne sais pas ce que je dégageais, mais ça suffisait à arrêter un conflit. Faute de quoi, j'avais vraiment de la colère en dedans de moi. Si à 10 ans, je rêvais de tuer des gens, à 16 ans, cette colère-là faisait encore partie de moi. Et elle fait encore partie de moi aujourd'hui, par contre. Et c'est là tout le travail qu'il y a dedans. C'est qu'à l'époque, je le voyais comme un ennemi à combattre, puis je devais être plus fort que ça. Donc, je devais endurer. Ouais. Donc, quand je suis tombé dans mes relations amoureuses, je devais endurer, je devais être plus fort. Je devais pas laisser, si c'était ma faute, si le couple n'était pas bon, je devais pas être correct, je devais pas être bon. Je me rabaissais, c'était jamais ma faute. Ma blonde est correcte, c'est moi au final qui n'est pas correct, même si j'ai de la peine. C'était toujours comme ça, c'était toujours comme ça. Ma première relation, ça a été terrible. Et les autres relations qui ont suivi les quelques années après, j'ai le même pattern. Je courais après des filles à problème, si on veut. C'était pas des mauvaises personnes, je tiens à le préciser. C'est que moi, je courais après des types de personnes qui n'étaient pas compatibles avec moi, puis qui n'avaient pas certains dossiers de régler dans leur propre vie, même si on est jeune, on a des choses à régler. Puis, on apprend, oui. Mais je courais après des femmes qui me causaient beaucoup de souffrance. Bref, je courais après ma mère biologique. Exactement. Même si elle ne me faisait pas de souffrance physique, elle me rabaissait. Et pour moi, difficile à admettre, même incohérent, je courais vers ce genre de relation-là.
Mais c'est ce que tu avais toujours connu, en fait. Donc, effectivement, même si ce n'était pas des violences physiques, c'était des violences peut-être psychiques. Et ça, c'est je dirais, quelque chose d'assez commun d'avoir eu une relation toxique avec un parent, puis d'aller le recréer. Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est ce que tu connaissais, toi, de l'amour. Puis c'est qui la première femme que tu as aimée dans ta vie, c'est ta mère. Donc, c'est ça pour toi l'amour que c'était. Donc, je ne suis pas étonnée de ce que tu dis, que tu as recréé des patterns finalement de ta mère. Après, ça a passé dans tes relations amoureuses. Puis, je veux te dire aussi, Tommy, que je suis très touchée par ce que tu dis par rapport à la colère. Encore une fois, c'est quelque chose que ça me rejoint en tout cas beaucoup. Et j'en ai parlé dans un épisode où je disais, comme toi, je suis une personnalité qui est très douce. Et pendant des années, j'avais beaucoup de colère intérieure, d'agressivité. Puis, j'en avais peur moi aussi. J'aime que tu appelles ça le cavalier noir. Là, je trouve ça personnalise aussi ce que tu vivais à l'intérieur de toi. C'est imagé. Mais c'est de comment, après ça, apprendre à vivre. Et le fait d'en avoir peur, ça rappelle aussi la colère du parent, la colère de ta mère. Moi, ça revenait réveiller que j'ai vu ma mère exploser de colère. J'ai vu ce que c'est la vraie colère aussi. Puis moi, à l'intérieur de moi, je ressens ça alors que j'ai souffert de la colère de ma mère. Tu sais. C'est comme c'est je rejetais horrible. Cette partie-là de moi parce que je l'avais subie de ma mère. Mais comme tu dis, c'est dans l'accueil. Après, en tout cas, moi, ça m'a fait ça. Je ne sais pas toi, tu me diras. Mais moi, juste d'accueillir que c'était une partie de moi, tout simplement, que moi, ben, la colère, c'est l'une des émotions qui va ressortir en premier. Ben, elle est beaucoup plus douce. J'arrive à l'apprivoiser. J'arrive à justement vivre avec, puis la laisser vivre, ça fait qu'elle est beaucoup moins forte parce que j'étais en colère, parce que j'acceptais des choses dans mon enfance aussi, ou dans mes relations amoureuses.
En fait, ce sentiment, oui, je te rejoins là-dessus. Puis pour moi, tout ce qui a trait à la colère, c'est un spectre qui est large. C'est pas une colère unique. C'est une colère typique à certains événements, certains dires. Actions que moi-même je peux commettre. Et ça, c'est les pires. Quand je commets, quand je reproduis une émotion qui me terrorisait anciennement, exemple, j'ai un enfant, mon garçon, je vais en parler évidemment, là, il découle de ma pire relation toxique à vie. Donc, il n'y a aucun parent qui va dire que c'est facile d'être parent. On a tous des émotions, ils ont tous un talent pour nous faire sortir de nos gonds. Et c'est quand que cette émotion-là naît en dedans de moi, que même aujourd'hui, je dois encore apprendre à connaître cette émotion-là parce qu'elle est nouvelle. C'est moi le parent maintenant. Maintenant, je suis le parent. Il y a un enfant qui subit mes émotions. Un point, c'est tout. Qu'elle soit joyeuse, colérique, triste, peu importe. Il subit mes émotions. Par contre, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que, et je ne suis pas seul, hein, j'ai ma conjointe aujourd'hui, je vais en parler. Hein, là, on parle de choses bien tristes, bien négatives, mais il y a beaucoup de beau à dire aussi. Oui,
c'est clair.
Dans tout ça, bien, j'ai cette émotion-là apprivoisée, puis à faire face aussi. C'est-à-dire que quand je sens cette colère-là, ça, je ne suis pas ma mère. C'est
exactement.
Important que je me le répète, je ne suis pas elle.
Oui.
Et non, mon fils n'est pas moi. Et malgré ce qu'il a vécu, là, etc., mon fils n'est pas moi. Tout, il n'y a rien de pareil, en fait. C'est important, mais c'est une émotion à apprivoiser. C'est une émotion aussi dans mon couple, parce que j'ai vécu beaucoup de relations toxiques. Et heureusement, mon couple n'en est pas une aujourd'hui. Par contre, est-ce qu'il est parfait, mon couple? Est-ce qu'on vit une vie avec des licornes et des arcs-en-ciel?
Non, ça n'existe pas.
Je pense que c'est un couple qui n'est pas parfait si c'est sur votre couple. Honnêtement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Il y a des choses qui ne vivent pas. Là. Mais il y a, évidemment, il y a des conflits entre moi et ma conjointe. On est confrontés tous les deux à ces relations toxiques qu'on a vécues, à ces blessures qui sont toujours présentes. Mais nous sommes assez, aujourd'hui, grands et responsables pour être capables d'un nommer ce qu'on ressent. C'est très difficile. Quand on parle tous français, mais on parle tous pas le même langage de l'âme, c'est super compliqué. Et d'arriver à se dire, écoute, je t'ai fait de la peine. C'est de parler au jeu, c'est tellement difficile dans l'émotion, d'où le pourquoi on a chacun deux méthodes. Elle s'isole, moi, je cours après. Maintenant, j'ai appris que je dois la laisser respirer. Bref, t'en parles dans tes podcasts.
T'es un bel exemple, t'es un bel exemple. Puis justement, là, donc, t'as eu la relation avec ta mère, t'as quand même compris assez rapidement, puis comme tu disais dans ton histoire de vie, ben, toi, t'as eu l'opportunité de quitter à ce moment-là cette sphère familiale avec ta mère pour être qu'avec ton père. Puis là, de ce que j'ai compris, c'est que tu disais, il y a eu des relations toxiques avec les femmes qui sont venues après, notamment celle avec la mère de ton enfant. Tu peux en parler si tu veux un petit peu,
oui,
voir comment ça,
ça
a été. Puis aussi, ce que j'aimerais savoir après, c'est à quel moment tu t'es dit stop, j'arrête les relations. Donc d'abord, on peut parler de cette relation-là parce que je pense qu'elle est importante dans ta vie, vu que tu as un enfant
avec.
En fait,
c'est ce qui est le plus triste, puis là, je m'adresse à tout le monde qui écoute. C'est tellement pas facile d'admettre que ta relation est toxique.
Mm-hmm.
Et c'est tellement facile de s'imaginer que sa relation est toxique aussi. Ça va dans les deux sens. Il suffit juste d'écouter un TikTok ou un autre, puis on s'imagine que ça, c'est bon dans ma relation, il fait ça. Donc, mon chum est toxique. Wow, faut vraiment pas tout mélanger. C'est important de prendre les pour, les contre, d'analyser les choses. Est-ce que c'est fait intentionnellement, non intentionnellement? Est-ce que c'est comme moi dans ma relation à l'heure actuelle, c'est vraiment ce qui nous sauve tous les deux? C'est vraiment ce parti-là, là, de démystifier qu'est-ce qui était toxique, qu'il ne l'était pas. Parce qu'à la base, un comme l'autre, on pouvait dire qu'on était toxique un pour l'autre. Je vais en parler tout à l'heure. Et pour en revenir, ma relation avec mon ex, la mère biologique de mon fils, qui a 5 ans aujourd'hui, c'est une relation qui m'est apparue un peu sur un plateau d'argent quand elle est arrivée. Je la trouvais physiquement de mon goût. Elle avait une sorte de côté bad girl que je n'avais pas connu vraiment. J'avais le goût de changement. Je me disais, tiens, justement, j'ai toujours couru après un certain type de fille. Je vais essayer de courir après un autre type de fille. Finalement, je suis allé exactement là où il ne fallait pas, mais je ne le savais pas. Par contre, il y avait beaucoup de signaux. Mon problème à moi, c'est de ne pas écouter mon entourage qui me disent, Tommy, cette personne-là, je ne la vois pas avec toi pour telle ou telle raison. Pas parce qu'elle était méchante, quoi que ce soit, rien à voir. Il y avait cette incompatibilité-là. Mais moi, je me suis créé des illusions. Je me suis créé beaucoup d'illusions. J'ai eu des bons moments dans les débuts, mais je refusais de voir les comportements qui sont pour moi inacceptables. C'est intolérable. Il y a certaines attitudes aujourd'hui ou façons d'agir qui sont inacceptables, et ça depuis toujours dans ma vie, mais que j'ai constamment accepté. Et chez cette personne-là, ces comportements-là étaient le premier, c'était la drogue. Écoute, beaucoup vont dire que fumer un joint, c'est pas grand-chose. Effectivement, je constate que c'est pas grand-chose, pas pire qu'un verre d'alcool, je suis bien au fond avec ça. Mais à cette époque-là de ma vie, je n'avais aucune ouverture face à ça. Et je me suis forcé une ouverture. T'sais. Je me suis dit, tiens, regarde, c'est juste ça le mauvais côté, je vais ça avec, qu'on a du plaisir. Je n'avais pas d'enfant, évidemment. J'ai accepté. J'ai pas chialé, j'ai accepté. Mais le temps fait son chemin. Le temps fait son chemin, comme un clou. Tu es assis dessus au début, il fait pas mal, mais la planche, la descend tranquillement, puis un moment donné, le clou, il fait mal. Mais ça allait. Ça allait, j'endurais bien. Ça allait. Ensuite de ça, il y avait la façon qu'elle me traitait. Dans une relation, j'estime qu'on doit se traiter d'égal à égal. Et il n'y avait pas d'égalité. C'était quand ça fait son affaire, ça fait son affaire. Quand ça ne fait pas son affaire, écrase, puis on fait ce que je veux. C'était beaucoup comme ça. Et si moi, je ne respectais pas ses limites à elle, moi, les miennes, il n'y en avait juste pas. Fait que si je ne respectais pas ses limites à elle, ben, j'étais un chien. C'est pas les mots qu'elle disait. Évidemment, je garde...
Tu te sentais comme ça, en tout cas.
J'image, OK? J'image, c'est important. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, et tout ce que j'ai vécu, je vais faire juste une parenthèse. Je n'ai que de la gratitude aujourd'hui pour tout ce qui m'est arrivé. Puis à refaire ma vie, je la referais exactement ainsi. Est-ce que je me souhaite de la souffrance? C'est pas ça que je veux dire. Mais ça fait qui je suis aujourd'hui, puis c'est important. Puis tout ce que j'ai aujourd'hui, là, mon rêve, que quand j'avais 10 ans, si je flatte un génie, c'est parce que tout ça est arrivé. Fait que ça, je veux juste le dire là, parce que s'il y en a qui, mettons, qui décrochent le podcast, c'est important.
Oui, c'est bon.
Je suis pas là à me plaindre tout le long. Là. C'est important, puis ça va peut-être même vous forcer à écouter jusqu'à la fin. Comment un gars qui peut vivre toutes ces choses-là, aujourd'hui, dire ça, eh bien oui, je le pense sincèrement. Et donc, parenthèse close.
J'aime ta parenthèse, puis je te rejoins énormément. Puis c'est clair qu'on va y revenir à la fin du podcast sur justement qu'est-ce que ça a créé de beau chez toi. Et ça va être très riche. Donc, justement, pour ceux qui veulent s'arrêter, non, je vous conseille, c'est le meilleur après ça, justement.
Oui, ouais, absolument. Absolument. On n'est pas là pour jouer au martyr. Mais plutôt pour que vous vous reconnaissiez dans certaines relations que vous avez soit en ce moment ou vous êtes déjà vues. Et non, je ne suis pas parfait. Je le répète. J'ai vécu cette relation-là toxique jusqu'au bout. J'ai refusé de voir qu'elle était toxique alors que je ne me savais pas bien dans cette relation-là. Et comme plusieurs. Je sais que je ne suis pas seul, mais je me suis dit qu'avoir un enfant serait merveilleux. J'étais beau-papa de sa fille. Son père n'était pas très, très présent à cette époque-là, pour toutes sortes de raisons. Ce n'est pas une mauvaise personne. Et moi, j'avais un rôle presque de papa. J'ai aimé ça. Je suis quelqu'un qui est très proche des enfants. J'adore les enfants. Je me suis dit, tiens, quelle bonne idée. J'ai envie d'avoir un enfant depuis toujours. Avoir envie que c'est le bon moment. Et là, il y aura toujours la fameuse phrase que si tu attends le bon moment pour avoir des enfants, tu n'auras probablement jamais d'enfant. J'y crois parce qu'aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir mon fils. J'ai eu mon enfant et c'est à partir de ce moment-là que les choses, s'ils n'allaient pas bien, ont pris une tournure tout autre. J'aimerais bien dire que mon enfer a commencé à partir de ce moment-là. Malheureusement, à partir de ce moment-là, j'étais pris, j'avais un enfant. Je m'étais engagé à la vie, à la mort, façon de parler. Pour moi, avoir un enfant, c'est plus important que le mariage, mes valeurs personnelles. C'est plus important qu'avoir un mariage. Pour moi, ça reste... C'est merveilleux, c'est des belles paroles, c'est une belle promesse. Mais avoir un enfant, t'es lié à la vie, à la mort, même après la mort.
Absolument.
Pour moi, il n'était pas question, peu importe ce que je vis, que je me sépare. Peu importe ce que je vis, je ne me séparerai pas. Et vous vous dites, OK, mais finalement, tu t'es séparé. Donc, pendant la grossesse, ce fut désagréable. Une grossesse extrêmement difficile. Qui suis-je pour juger? Je suis un homme. Donc, je vais m'arrêter là. Ça n'a pas été facile pour moi non plus d'essayer de la soutenir là-dedans. Mais j'ai fait de mon mieux. Mais évidemment, ça n'a pas été facile. Au travers de ça, un proche à elle est mort. Une personne qui était extrêmement importante pour elle. Et mon fils est né. Quelques mois après, évidemment, là, il y a 9 mois dans tout ça. Mon fils est né. Et ce fut évidemment un moment de bonheur dès l'instant où il est né. Dans notre couple aussi, les nuages se sont... Et j'ai eu la chance, c'est un choix qu'on avait fait, donc c'est plus ou moins une chance, mais je le considère comme une chance. Je me suis permis, moi et elle, qu'elle reste à la maison. Et moi, dans ce cas-ci, j'ai pu avoir tous les congés de paternité qu'une mère a. J'ai pu rester 6 mois de temps à la maison, avec avoir mon fils grandir. C'est une chance inespérée. Donc, j'ai vraiment pu être présent. Mais pendant ces 6 mois-là, j'ai été à la maison. J'étais à la maison et j'ai enduré des comportements toxiques à maintes reprises. Et ce côté-là était difficile parce que, évidemment, aucune femme est à l'abri d'un postpartum. Puis je respecte ça, puis c'est très difficile. Par contre, une dépression alimentée d'un postpartum, alimentée de médicaments, c'est bien tout ça, je trouve ça super. Hein? Mais prendre la drogue avec ça, mais ce qui est au début une consommation qui en devient un besoin vital, plus les médicaments, ça le fait un peu comme une explosion. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Hein. C'est bien ma perception en tant que conjoint.
Oui,
ça
l'a fini
par faire une explosion. Et la personne que j'ai connue a transformé du tout au tout. Du tout au tout. Elle était méconnaissable au point où ses proches non plus ne la reconnaissaient plus. Elle a changé. C'est tout ce que je peux dire. Elle a changé. Et pas pour le mieux, malheureusement. L'histoire se termine avec tromperie, abandon. Donc, comment ma relation s'est terminée, ce n'est pas parce que j'abandonnais, c'est parce que je m'étais fait tromper. Et pour moi, la trahison est la pire de toutes les blessures qu'on peut m'infliger. On peut me faire énormément de choses. Je suis extrêmement solide, trop solide d'ailleurs. Mais la trahison, c'est la seule que tu... Pour moi, c'est plus qu'inacceptable après une trahison.
OK. Donc là, si je comprends bien, ça s'est terminé, cette relation-là. Puis après ça, donc, tu as gardé, bien sûr, la relation avec ton enfant, puis tout ce que tu expliquais,
oui, etc. En fait, j'ai essayé de garder une relation autant que possible avec elle. Évidemment, une trahison, ça arrive dans plusieurs couples, malheureusement, et arrive ce qui arrive. Suite à ça, il y a eu la garde partagée et tout ça. Mais pendant ces 4 années-là, j'ai enduré beaucoup. Et ce que j'endurais, en fait, c'est ce que je m'infligeais.
Mm-hmm.
Ce qui est important que moi, j'ai compris, c'est que tu endures ce que tu tolères.
Exactement.
Un point, c'est tout.
Donc,
ce n'est pas de sa faute à elle. Évidemment, on peut jouer sur les mots et dire, ben, c'est quand même elle qui dit, oui, mais c'est moi qui le tolérais.
Absolument.
Il y a longtemps, j'aurais pu mettre mes limites.
Tout à fait. Et c'est ce que je dis très souvent dans mes podcasts, ou même en coaching privé, c'est on est deux dans une relation. On est toujours deux dans une relation. On est deux quand ça fonctionne, on est deux quand ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai, comme tu disais, il y en a un qui va avoir des comportements toxiques, par exemple, mais il y a l'autre qui accepte les comportements toxiques.
Absolument.
Et d'ailleurs, tu disais, dans t'affirmer, et justement, qu'est-ce que tu tolères, qu'est-ce que tu endures? Puis quand je t'écoutais, je me disais, qu'est-ce que tu te contentes d'avoir dans une relation?
Absolument. Absolument. Pour moi... À la fin, je ne me contentais plus. À la fin, je me disais, je suis papa, maintenant j'assume, point, c'est tout. Peu importe
c'est
ce qu'on
ça,
est, c'est
exactement.
Plus une question
ça a comme
de bonheur,
changé, exactement. C'est
mais...
bon, ben, c'est la famille, tu sais, puis en plus, après, ça embarque beaucoup aussi avec des croyances, de la famille traditionnelle, de la famille de papa, maman, avec l'enfant sous même toit. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, qui font que tu endures encore plus jusqu'à qu'à un moment donné, à force de repousser tes limites. Qu'est-ce qui arrive? Ben, soit la vie fait que, soit toi, tu décides d'arrêter la relation. Mais de ce que je comprends, là, ça s'est terminé. Puis,
mais il y a une chose qui... Je m'excuse,
oui,
je te coupe la parole,
non,
Annelise.
Vas-y, vas-y.
C'est important pour moi parce que ça a été le game changer de ma relation. Évidemment, pour que je me rende compte de la trahison, elle était bien camouflée. Et donc, pour que je m'en rende compte, il a fallu que j'aie un éveil. Et cet éveil-là, je ne me le serais pas produit moi-même. J'étais beaucoup trop naïf et je suis naïf de nature, mais... J'aurais simplement refusé de voir ce qui était sous mon nez, un point c'est tout. J'étais au travail un jour, puis j'ai un très bon ami à moi. Il me pose une question très anodine, puis si ça résonne en dedans de toi, quand tu écoutes ce podcast-là, repose-toi la question sincèrement, 100 fois s'il le faut. Cette question-là, je me suis mis, c'est comme si on avait ouvert les champlures de mes yeux, puis ça coulait tout seul. C'était, je ne comprenais même pas pourquoi je pleurais, ça sortait de nulle part. Et je me suis fait demander, puis excusez, ça va être cru, mais mon chum m'a dit mot pour mot, voyons, tabarnak, c'est quoi, toi, tu veux, esti? Pas compliqué, je m'en crisse de toutes tes histoires. Là. Toi, c'est quoi tu veux? Pas compliqué, toi, c'est quoi tu veux? Et ça a été dévastateur chez moi. Je ne savais aucunement ce que je voulais. Je ne savais même plus qui j'étais. Je m'appelais Tommy Bouchard, fine, mais qui j'étais, je ne savais plus. Qu'est-ce que j'aimais? Qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie? Quel genre de père je voulais être? Oh, j'avais une belle, peut-être une idée, mais qui j'étais? Quel genre de père j'étais vraiment, finalement? Quel genre d'homme j'étais pour me respecter comme ça? Et bref, sans même le savoir, mon corps, lui, mon âme, savait en maudit ce qui se passait, moi, non. Et je me suis mis à pleurer, 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 pleurer. Puis je riais en pleurant. Moi, je me regardais, je me disais, voyons, ce qui se passe? Je ne sais pas, je comprends pas.
Un éveil, comme tu
puis
dis.
Je pleurais.
Puis c'était... ce que je trouve beau dans ce que tu dis, c'est à quel point... On le sait dans notre fond intérieur, tu sais, intuitivement, ça faisait longtemps que tu devais le savoir qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, mais tu étais là à te convaincre que oui, que oui, que oui. Mais juste le fait que ton ami t'ait dit ça, ben, ça a été genre le, comme on dit, wake-up call, tu sais, OK, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, qu'est-ce que je veux? Ça a été une super belle remise en question pour toi. Ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que cette relation a été la dernière? Est-ce que c'est de là que tu t'es dit... C'est fini?
Ouais. Ah, absolument.
Okay,
ensuite de ça, je suis tombé dans le processus de guérison vraiment.
Alors,
là, à partir de ce moment-là, j'ai compris que pour être... Évidemment, mon père, j'en ai parlé, que c'était une personne qui était proche. Je suis très proche avec mon père, j'en parle brièvement, mais mon père était d'un grand soutien pour moi à ce moment-là. Il me recueillit, moi et mon fils, chez lui, quand je m'étais séparé. Tout ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup de travail sur moi à faire. Et ça s'est fait à vitesse grand V. Je suis quelqu'un qui apprend vite dans la vie. Je continue d'apprendre, évidemment. Il y a une chose qui était aussi forte que Son Goku pouvait être à l'époque avec moi. Il y a une chose que je me suis rappelé, c'est que la projection, c'est puissant. C'est terriblement puissant de se projeter dans son rêve, dans une image dans laquelle tu crois. C'est important. Et une chose à laquelle il était plus puissant que tout à ce moment-là, j'ai eu plusieurs projections dans ma vie, je pourrais en parler sur un autre type de podcast un jour, peut-être, mais être un père pour moi, le même père que mon père était pour moi, un homme fort et un bon père, pour moi, ça reflétait une chose, puis je l'avais compris. Je ne peux pas être un père, un bon père pour mon fils, le père que j'aimerais être, si je subis et que je suis malheureux. Quel genre de père je vais montrer à mon fils? Et ça, c'est une image sur Facebook qui a passé. Des fois, il y a bien des mauvais côtés réseaux sociaux, mais c'est une image avec un lion très fort, un peu à la Simba et Mufasa.
Ouais.
C'est un lion qui était sur le dessus d'une roche et qui regardait en arrière ces deux lionceaux. Sur les écrits, c'est écrit « Quand tu as envie d'abandonner, souviens-toi qu'il te regarde.
»
Et ça, j'en parle, j'ai des frissons en ce moment, mais ça a été... Pour moi, ça a provoqué le changement, la séparation, il y a plein de choses, évidemment. Je me suis dit, tiens, je vais devenir l'homme que je suis, pas que j'aurais dû être. Et je n'aime pas le terme, je vais devenir la meilleure version de moi-même. Moi, j'ai une accroche avec ça parce que je suis moi-même. Et je suis déjà la meilleure version de moi-même. J'ai simplement pas choisi d'agir ainsi. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'aimais quand j'étais ado? J'aimais faire du skate. Ben, go, on retourne. Je commence à faire du skate. J'ai recommencé à prendre du temps pour moi. Je n'ai jamais oublié mon fils dans tout ça, mais je me suis redécouvert.
Appris à découvrir. Ouais, c'est
à me
ça.
Redécouvrir de nouveau. J'aimais le dessin, je vais redessiner. Tiens, est-ce que ça me rejoint encore? Est-ce que la guitare, j'avais arrêté de jouer de la guitare? J'adore jouer de la guitare. C'est tellement ressemblant. Je suis quelqu'un de ressemblant. Cool, je vais rejouer de la guitare. Je me suis mis à jouer de la guitare, faire des vidéos un peu de guitare. J'aimais ça. Une fois que je m'étais retrouvé, j'ai dit, tiens, là, je me sens bien dans ma peau, je suis fier, beau gars, je suis content, je m'étais... Et encore une fois, je parle de projection, pour moi, c'est un outil tellement puissant, je me levais chaque matin et dès que je passais devant un miroir, que je le crois ou que je le crois pas, je me regardais, je dis, moi, pas mal fier. Me dis un compliment, pas mal beau, toi.
J'adore.
Et n'importe quoi. Crime, je suis fier de toi, t'es pas mal fin, t'es gentil, crime, t'es beau tes cheveux aujourd'hui. Je me faisais un compliment. Mon père, quand il passait d'un fois en bas dans le sous-sol, il me regardait, il disait... C'est sûr que ça va. Ah, je dis, ça va excessivement bien. T'es pas fier, toi, d'avoir un fils comme moi. Je virais ça toujours au ridicule, mais au ridicule.
Cool.
Et ça en est devenu, je suis encore comme ça aujourd'hui. Tout le monde qui me connaît, Tommy se vante constamment. Évidemment, c'est pas sérieux, c'est très, on va dire, en gag, mais il y a personne qui te prend mal et tout le monde le prend bien, puis en riant, c'est juste, c'est agréable pour l'atmosphère. Et vous imaginez que mon niveau de confiance se maintient constamment parce que,
oui,
que je le crois,
ton
que
estime,
je le crois pas.
En fait. Au-delà de la confiance, c'est ton estime personnelle que tu travailles, puis c'est des outils en coaching qu'on utilise, justement, d'apprendre à se regarder dans le miroir. Combien il y a de personnes que, des fois, je vais dire, regarde-toi dans le miroir, puis dis-toi, je t'aime, elles sont gênées. Ah, mais c'est toi, là, c'est toi. Puis, justement, ce que tu fais, je trouve ça merveilleux, là, j'ai envie de dire, d'amplifier. Puis ça, j'avais vu dans une formation que j'avais faite avec Tony Robbins.
Amplifier,
c'est bon. Il expliquait ça, justement. D'aller amplifier ton feeling. Hey, yes, je suis bon, puis je suis beau, puis ta-ta-ta, mais de le sentir aussi, parce que c'est pas juste des mots que tu dis.
Au début, tu le sens pas, hein? Au début, tu le sens pas.
Non,
ridicule,
au début,
c'est sûr. Point, c'est tout, là.
C'est sûr. Je suis d'accord, je comprends tout à fait. Mais à force, justement, de faire du renforcement positif, mais ça fait juste à en parler, là, je le vois, ton niveau d'énergie. Juste à en parler, tu es comme un niveau d'énergie différent. Donc, c'est un bon truc. Merci.
Oui, parce que en fait, dans le processus de guérison, là, j'en ai parlé, j'ai fait de la projection devant le miroir, tout ça, il n'y a pas eu que ça, mais je me suis dit, tiens, maintenant, allons au combat. Parce que je suis quelqu'un qui a affronté toute sa vie ses démons, d'une manière ou d'une autre, dans mes relations amicales, quoi que ce soit, avec mon passé, et je ne voulais donc pas être ce que je n'aime pas, mon cavalier noir. Au moment où j'ai eu mon enfant, là, c'est une autre partie, mais il y a une étape où j'ai vraiment accepté cette partie-là de moi. C'est important, il faut le mentionner, parce que quand j'ai eu mon fils, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nous quand on a un enfant. Moi, personnellement, la première chose, c'est que j'ai compris ce que c'était vraiment que l'amour.
Mais ouais.
Parce qu'après 15 secondes de vie, j'étais prête à y laisser ma vie là, pour que lui vive. C'est un no-brainer. C'est maintenant que ça se passe. S'il faut que je meure là pour que lui vive, je le fais. Je ne réfléchis pas, ça ne me dérange pas. Et je me suis dit, c'est un amour incroyable. Évidemment, il y a plusieurs types d'amour. Et à partir de là, il y a un moment précis, là, je chauffe plein d'étapes, mais il y a un moment précis où j'ai compris que cette partie-là de moi faisait en sorte que j'étais qui je suis aujourd'hui. Si je suis empathique envers les gens, c'est parce que je sais ce que c'est que la souffrance. Si J'ai blessé d'autres dans le passé parce que on a tous blessé des gens par nos actions dans le passé. Eh bien, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de méchant. Un point, c'est tout. Je suis quelqu'un de maladroit.
Exact.
Je suis maladroit. Un point, c'est tout.
Ouais.
Et ils sont maladroits aussi. Quand les gens me blessent, ils sont maladroits, ils ne sont pas méchants nécessairement. Évidemment, il y a un faible pourcentage de population qui sont méchants, oui. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde n'est pas méchant. Mais la majorité des gens, on a le fond bon, on est simplement maladroit. Et ensuite de ça, j'en voulais évidemment à ma mère. J'avais beaucoup de colère envers ma mère. C'est à cause de elle. Et là, plus tu mets la faute sur autrui, plus c'est facile.
Ouais.
Mais en réalité, je n'accepte toujours pas cette partie-là de moi. Si... par miracle, elle écoute ce podcast-là, parce que je vais le publier, moi aussi, de mon côté. Si quelqu'un le rejoint et lui rend ce podcast-là et que tu es encore en train d'écouter, j'ai un message à lui dire.
Mm-hmm.
Puis j'en ai voulu longtemps. Longtemps, longtemps, longtemps. Puis même quand je pensais que je lui en voulais pas, je lui en voulais encore, je lui pardonnais pas ce qu'elle m'avait fait. Et quelque part, ben, j'ai finalement appris que ce n'était pas une question de pardon.
Mm-hmm.
Je ne suis pas obligé pardonner nécessairement parce que c'est une action qui était inacceptable pour moi. Et que tu l'admettes ou tu ne l'admettes pas, c'est ma perception à moi de comment moi j'ai vécu les choses. Et c'était super important de m'en libérer. Puis de la façon que je m'en suis libéré moi, ça a été en acceptant que je ne suis pas obligé de pardonner. Et ça me faisait souffrir. Je me sentais obligé de pardonner pour être une bonne personne. Quand tu es élevé un peu avec la religion, Jésus, tout ça, tu apprends que le pardon, c'est super important et c'est une valeur très importante. Il y a certaines choses qui ne peuvent être pardonnées, mais acceptées.
Ouais.
Exactement. Et là, il y a une différence.
Alors, je veux juste t'arrêter parce que ce que tu dis résonne tellement pour moi, puisque c'est ce que je dis beaucoup, je véhicule beaucoup aussi comme message. On en parle beaucoup du pardon, le pardon, pardonne, pardonne pour te libérer. Puis je suis pas d'accord avec ça. Tu n'es pas obligé de pardonner les actions, les gestes qui ont été faits. Par contre, c'est d'accepter ce que tu as vécu pour te sentir bien avec ça, pour t'en libérer, pour toi reprendre ton pouvoir, en fait, parce que c'est ça que tu fais. Quand tu en veux à ton parent, puis écoute, je suis passée par là aussi, tu sais, j'en ai voulu des années, moi aussi, à ma mère. Puis à un moment donné, c'était même confortable. C'était de sa faute que ma vie allait mal, puis c'était à cause d'elle, tu comprends, c'est ma vie. Il y a comme un côté aussi d'idéaliser. Ah, si ma mère avait été différente, ma vie aurait été tellement belle. Non. J'ai toujours le pouvoir sur ma vie aujourd'hui. C'est moi qui dirige ma vie. C'est pas ma mère, là. Elle a fait ce qu'elle a fait, etc. Puis, comme toi, le jour où j'ai décidé que, ben en fait, j'ai pas besoin de pardonner. J'ai juste besoin d'accepter que ce que j'ai vécu ça, puis que ça a fait la femme que je suis aujourd'hui et toi, l'homme que t'es aujourd'hui. Et ça amène de la puissance. Moi, là, quand j'ai compris j'avais du pouvoir là-dessus, ça m'a libérée là, de ces relations-là. J'étais plus dans la haine, dans la colère ou dans « je veux changer qu'est-ce qui est inchangeable. Je veux la mère idéale. » Peut-être que tu as eu ça aussi, là, le rêve de la mère idéale, là, la relation idéale avec le parent. Moi, je disais « ah, ma mère, j'aimerais ça avoir une relation comme ci, comme ça, comme ci. » Elle n'existera jamais, cette relation-là. Puis c'est correct. C'est correct. J'ai eu la mère, j'ai eu, et tant mieux, j'ai eu cette mère aussi. Donc, j'adore la nuance et je veux dire vraiment que je t'appuie beaucoup là-dessus, la nuance entre le pardon et l'acceptation. C'est énorme.
En fait, acceptation, c'est un mot qui est très populaire dernièrement. On l'entend sur les réseaux sociaux, un peu partout. Et je trouve qu'il n'est pas... souvent, quand on regarde les vidéos des réseaux sociaux, on a 30 secondes pour émettre un contenu, puis on élabore aucunement. C'est pitché, puis il y a un faible pourcentage de population, selon ce que tu as vécu, ta propre perception, qui vont comprendre réellement l'essence. Mais dans l'acceptation, ce n'est pas d'accepter tout ce qui t'arrive.
Mm-hmm.
Mais c'est d'accepter que tout ce qui t'arrive est causé parce que tu acceptes.
C'est différent d'accepter
ce qui t'arrive, puis que c'est causé parce que tu l'acceptes. Il y a une nuance, mais elle est énorme. Elle est énorme. Et donc, comment on fait pour guérir de ces relations toxiques? C'est d'accepter qu'à la base, si tu te demandes pourquoi que chacune des relations que tu as dans ta vie, tu as l'impression que c'est tout le temps des trous de cul, des douchebags qui viennent dans ta vie ou des connes qui te trompent et qui partent avec d'autres mondes, etc. Première des choses, tu as le contrôle sur qui? Sur toi. Tu n'as pas le contrôle sur la personne avec qui tu fréquentes. Ça, j'ai dû le comprendre très tôt. Et sinon, je serais resté un homme extrêmement jaloux. J'ai été trompé maintes et maintes fois. Un de mes beaux-pères m'avait raconté, il m'a dit, « Tommy, si tu avais un chien que tu tiens en laisse tous les jours, de ta vie. Et un jour, tu lâches, tu détaches sa laisse de son collier, tu penses qu'il fait quoi? Il s'en va, il sort de la cour et il y a des chances que tu ne le revois pas. Ou il va revenir plus tard, mais il va avoir été chez le voisin. Et dit un chien que tu ne tiens jamais en laisse, que tu lui apprends son haut les limites et que tu vis avec, il grandit avec toi, il revient toujours, il reste dans les demeures. Bref, c'est une image. Je suis pas en train de comparer ma blonde à un chien.
Ouais, je comprends.
Non, mais il y en a qui vont dans les extrêmes.
Mais, c'est bon de nuancer.
Mais bref, je suis quelqu'un qui image, mais je prends souvent des extrêmes pour imager mes propos. Ça reste que c'est comme ça que j'ai compris la jalousie, pour moi, c'était néfaste. Et pour moi, ça l'a brisé la jalousie en dedans de moi. Dès que je la ressentais, je disais, hey, je suis qui pour la contrôler? Elle ne me contrôle pas, je ne la contrôle pas. Par contre, il y a un respect entre les deux. Et c'est là que c'est beau. En fait, l'amour, c'est la confiance. C'est là où j'ai compris aussi. C'est important d'avoir confiance en l'autre. Évidemment, j'ai été aveuglé de cette confiance. Et il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais par la suite, quand je me suis séparé, même si ça a encore fini par une trahison, je ne suis pas resté là-dessus. Je me suis dit, écoute, je n'avais pas le contrôle. Et j'ai accepté tellement longtemps qu'au final, je n'étais plus le conjoint idéal à la toute fin, moi non plus. Là. C'est sûr et certain. Là. Et donc, aussi bien que ça se termine, et même si c'est de cette façon. Et par la suite, je suis tombé dans le mode guérison. Donc, je suis seul, j'ai appris à me redécouvrir. On en a parlé brièvement. Et je rencontre des filles. Et là, j'avais besoin de rencontrer des filles. Et j'étais très honnête avec les filles que j'ai rencontrées. By the way, je fais un petit aparté. Encore là, on va dire que je suis très confiant, mais j'étais excellent dans ce domaine-là pour la simple et unique raison que j'étais intègre. Je ne suis pas en train de dire que j'étais plus beau qu'un autre. Je ne suis pas en train de dire que j'étais belle gueule. Je ne suis pas en train de dire que j'étais douchebag. J'étais intègre. Donc, première des choses, je n'envoyais pas de photos de mes parties. Je n'avais rien de bizarre à présenter. J'étais un homme, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. J'avais une maison, un enfant, je ne m'en cachais pas. Et je n'étais pas là pour une relation amoureuse. Je me cherchais simplement une personne avec qui j'allais avoir du bon temps, avec qui je pouvais passer un super agréable, un film peut-être, une soirée, parce que je suis un humain, j'ai besoin d'affection, mais que demain, on passe à autre chose. Si on se revoit, on se revoit. Et un point, c'est tout. C'était mis carte sur table. Il n'y avait rien à cacher.
C'était transparent, en fait, sur ce que tu voulais.
Oui. J'ai rencontré plusieurs femmes ainsi durant ma période où je suis resté célibataire. Et là, évidemment, dans toi, tu dis, est-ce que je suis correct de faire ça? Mais à partir du moment où tu es intègre, moi, c'est le même que je le voyais. À partir du moment où j'étais intègre, je ne faisais pas de fausses à croire. Je n'étais pas. Il n'y avait aucun mensonge. Donc, c'était consentant. Moi, j'ai appris à me redécouvrir là-dedans au niveau de mes relations. C'est important. Je n'étais pas à la recherche de l'amour, j'étais à la recherche d'une relation saine. Et pour moi, toute relation saine, aujourd'hui, je suis content, il n'y a pas plus tard qu'en fin de semaine, en plus, j'ai dit à ma blonde, tu sais, B, j'ai dit, sérieux, j'ai dit, t'es ma meilleure amie. J'ai dit, je réalise ça, mais c'est avec toi que je passe les meilleurs moments. Puis là, ça fait cliché à fond, mais c'est sincère. Mais c'est ce que j'ai recherché. Je viens juste de le nommer. Je cherchais une personne avec qui passer du bon temps, qui je pouvais que ça pouvait être agréable, que je pouvais avoir de l'affection le soir. Je vais prendre une coupe de vin. Puis si j'avais envie d'être seul le soir, c'est correct aussi. Chacun de son bord, on vit bien avec ça.
Exact.
Et pourtant, ben, cette relation-là, aujourd'hui, je l'ai. J'ai rencontré Tania, ma conjointe, puis je l'ai, cette relation-là. Est-ce qu'on chicane des fois? Ben oui. Est-ce qu'on se crie même après? Ça arrive. Par contre, au travers de tout ce développement-là, il y a une chose que je n'ai pas acceptée là-dedans, c'est tout ce que j'ai toléré anciennement. J'ai dit, ça y est, je ne le tolère plus. Et elle, de son côté, elle a vécu un passé tout aussi spécial que le mien à sa façon. Ça fait des clashs, elle explose. On s'est rencontrés quand mon fils, sa mère biologique, l'a abandonné. Dans mon ex, tout en disant abandonné mon fils. Mm-hmm. On s'est rencontrés dans ce moment-là. Elle est tombée maman par défaut. Je pourrais continuer à faire un podcast juste avec nos deux ans de relation.
Beaucoup de bouleversements, c'est ça, exactement.
C'est terrible. C'est les pires conditions pour se rencontrer dans un couple. Et ça n'a pas été facile, mais c'est de cette façon-là, au travers de tous ces démons et ces combats intenses qu'on a eus un envers l'autre, de se dire on s'aime. Et c'est là où quand je reviens à ce que je disais au tout début, c'est facile de dire que ma relation elle est toxique. J'aurais pu m'enfuir dès les premiers instants, j'avais tous les indicateurs qui me disaient je ne dois pas rester dans cette relation-là, je dois sortir de là. Mon fils, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais en fait, c'est moi qui n'étais pas bien. Première des choses, ma conjointe, elle n'était pas bien non plus à ce moment-là. Il y a une chose qu'on a appris et on a surtout appris à maîtriser dans la dernière année, c'est la communication. Puis je me suis rendu compte à quel point nous parlons tous français, mais qu'on ne sait tous pas se parler.
Oui.
Et j'ai vu des vidéos récemment sur TikTok en disant comme quoi que aujourd'hui, on trouve que les gens s'offusquent de tout et de rien. Et c'est pareil dans une relation, là. Il n'y a rien de spécial. On s'offusque de tout et de rien. Puis on se dit que ça n'a plus d'allure en 2023, on ne peut plus rien dire. Mais ce n'est pas compliqué. C'est parce que D'un, on n'apprend pas aux gens à communiquer puis à se parler. Ce n'est pas parce qu'on parle français qu'on parle tout, là, comme du monde.
Mm-hmm.
On n'apprend pas à communiquer, donc on s'étonne que les gens ne sachent plus entendre de la bonne façon.
Exactement.
Et donc, dans ta relation de couple, ne t'étonne pas si tu n'arrives pas à communiquer, si l'autre n'entend pas comment toi tu parles. Tu en parles dans un de tes podcasts et c'était magique comment tu le décris tellement mieux que moi, mais c'est de développer un langage. Tu dis que ton conjoint, c'est quelqu'un qui est très rationnel. Et donc, ouais. Pour le rejoindre, tu as besoin de quelque chose de concret. Toi, tu es quelqu'un d'émotionnel. Et je l'ai appliqué mm-hmm. chez moi parce que mm-hmm. je me suis dit, ça a bien trop l'air drôle, il faut que j'essaie ça. Et ma conjointe, elle est exactement comme ça. Moi, je suis un peu, même si j'ai un côté émotionnel très fort, au niveau de régler le conflit, je suis rationnel. Mais elle est émotionnelle. Donc, pour entrer en contact avec elle, je dois lui dire, je vois que tu es fâché puis je t'ai fait de la peine. Oh! Oh, on dirait comme une marmotte. Oh,
ça, ouais, ça débloque. Amène l'ouverture.
Oui, ben, je lui démontre que j'entends son émotion.
Exact.
Mais ça a été très long à accepter. Parce que dès l'instant où elle ne m'écoutait pas, pour moi, voyons, c'est logique, c'est ça. Voyons, sacrément, tu vois bien que tu n'as pas d'allure. Tu, bing, bang, 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 explose, ça finit ça, c'était le calvaire. Là.
Et puis, ce que j'aime dans ce que tu dis, Tommy, c'est que déjà, j'entends que tu as brisé un pattern de relation, un comportement toxique. Puis, je suis entièrement d'accord aussi avec toi quand tu dis hey, c'est pas vrai que toutes les relations sont toxiques. Ça aussi, hein, c'est quelque chose qu'on entend énormément. J'ai une relation, je suis dans une relation toxique. D'une, premièrement, je le dis tout de suite, on a tous, Tommy, moi, toi qui m'écoutes, on a tous des comportements toxiques dans des relations. À un moment donné, tu sais, soit on va faire un petit peu de chantage affectif, on va tester l'autre, ça peut être des petites choses. Mais ce qui compte, parce que sinon, t'imagines, on quitterait toutes les personnes qui ont des comportements toxiques, là, ces personnes-là se retrouveraient toujours très seules. Non, parfois, c'est possible aussi d'avoir des comportements toxiques dans une relation. Puis si les deux veulent travailler ensemble, en équipe, pour s'améliorer, voilà. Pour mieux communiquer, pour arrêter ces comportements toxiques, pour travailler sur les blessures, mais c'est faisable. En notant, bien sûr, qu'on ne va pas, encore une fois, dans l'extrême de violence physique et extrême, etc. Puis, de choses que vous avez essayé peut-être.
Bien sûr.
Nombreux outils qui n'ont pas marché. Mais peut-être pas tout de suite d'abandonner au premier comportement toxique en disant « alerte rouge, red flag, je m'en vais ». Non, chaque relation, ça se travaille parce que, comme tu dis, Tommy, on est tous différents. On ne va pas trouver un alter ego qui j'ouvre la bouche. Ah, il va me comprendre en un claquement de doigts, peut-être avec le temps, peut-être à force de se connaître. Mais
c'est quoi la loterie?
Moi, je brise les rêves de tous ceux qui écoutent ça ce soir aujourd'hui. Il n'y a personne qui devine, il n'y a personne qui va te ressembler, qui va comprendre en un claquement de doigts. Ça demande du travail, ça demande de l'effort. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'au final, toi, avec ta conjointe, tu es une belle preuve. Au final, ça crée la solidité. Ça crée ce « wow, tu sais, on a traversé une tempête ensemble. On a traversé une chicane ensemble. » Puis, ça fait qu'on est encore plus solide.
Aujourd'hui, justement, parfois, on a des bonnes chicanes, puis c'est drôle parce que maintenant, je le vire au running gag, puis elle aussi, c'est on peut vivre une situation frustrante qui nous a blessés, que ce soit volontaire ou involontaire, là, on s'est fait de la peine. Et puis, il y a ce moment où on laisse la poussière tomber, moi surtout, hein, c'est Tommy, il faut qu'on laisse la poussière tomber, mais où on peut aller se rejoindre. Puis il y a une chose qui est puissante, puis c'est pour moi, c'est le joyau de ma relation à l'heure actuelle, c'est la confiance qu'on a en l'un de l'autre. C'est-à-dire que je t'ai fait de la peine, tu m'as fait de la peine, une chicane, ça se fait à deux, même il y en a un qui était pire que l'autre, on ne joue pas à qui était pire, mais c'est vraiment le moment où on est capable de se dire, écoute, puis c'est en joke, même si on est fâché, mais de se dire, sérieux, là? C'est vraiment ça, après tout ce qu'on a vécu, qui va faire plus de dommages. On est fait plus fort que ça, on va dire vraies affaires, là. Et ça a un effet déclencheur à, pas nécessairement immédiatement la discussion, mais à prendre conscience de, c'est vrai qu'on est fait fort et qu'on est plus grand que ce petit bévu émotion-là. Et par la suite, si je lui dis et si elle me dit, je ne cherchais pas à te faire du mal. Je m'excuse si j'ai fait ça, puis c'est ça que tu as ressenti. J'étais en colère, je vivais telle chose, mais je ne voulais pas te faire, puis je vois que je t'ai fait mal. Et là, le jeu est très important. Absolument. On l'apprend depuis le primaire. On ne se le fait pas enseigner, mais on se le fait dire simplement. mais le « je » change tout dans une discussion. Forcez-vous à prendre le temps à réfléchir quand vous parlez. Moi, qui est quelqu'un qui parle beaucoup, j'espère que je ne surprends personne en ce moment, mais le « je » est important. Et donc, de dire « je m'excuse si je t'ai fait de la peine, j'ai l'impression, ou du moins je le vois, tu as l'air vraiment fâché, puis je me sens mal. » Parce que quand tellement je t'ai dit important. Ça, je ne cherchais pas à telle chose. Et car elle m'aime, car elle me fait confiance, elle ne doute pas de mes paroles. Oh, elle a toujours de la colère, elle a toujours ses émotions. Et oui. Là, je le fais dans le sens où c'est moi qui lui parle à elle, mais c'est vice-versa, elle le fait avec moi aussi quand c'est moi qui baboune. C'est important parce que ces mots ont force de parole. C'est-à-dire que ces mots sont absolus. Quand elle me dit je suis désolé, je sais que j'étais trop loin. Je ne dirai rien, à part, effectivement, j'ai eu de la peine.
Mais il n'y a rien de pire dans une relation que de faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Tu sais, et des fois, c'est plein de fois. Puis moi-même, d'ailleurs, à l'époque, avant de connaître tout le développement personnel, tout ça, je faisais ça dans mes relations. C'est, bon, il y a eu une chicane, j'ai dit des choses que je ne pensais pas sous le coup de la colère. Je sais hein, l'impact que ça peut avoir sur l'autre, mais on va faire comme si de rien n'était. Mais il n'y a rien de pire que de faire comme si de rien n'était. Parce que ça ne s'oublie pas, ça s'accumule.
Ma relation en ce moment, c'est quelque chose de personnel, c'est pas un dévoilement, mais c'est quelque chose de personnel. J'ai une relation dans un membre de ma famille très proche qui est pas en péril, parce que je crois encore une fois qu'on est beaucoup plus grand que la situation, mais elle fait très mal parce qu'on a joué à l'autruche trop longtemps. Trop longtemps, moi, je me suis pas exprimé. Et encore une fois, j'espère que vous l'entendez, je mets pas la faute sur la personne avec qui est très proche de moi là, dans ma vie, mais c'est moi. Il y a trop longtemps où moi, j'ai pas, encore une fois, j'ai toléré, j'ai pas mis ma limite. Et vous vous imaginez que quand tu viens à trop attendre, à faire comme si tout allait bien, et là, on peut parler d'une relation personnelle, hein, on parle des relations en général, mais quand tu attends trop, et maintenant, j'ouvre mon livre, et voici, dans mon livre, j'ai maintenant 25 chapitres sur lesquels j'aimerais te mentionner. Chapitre 1, il y a des bonnes chances qu'au chapitre 2, tu aies déjà envie de m'en sacrer une. Au chapitre 25, on se parlera plus jamais. T'sais? Donc, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que tu n'écoutais pas, parce que si, parce que ça. On peut rentrer dans le tu-tu-tu encore et ça va être dévastateur. Je vais causer seulement plus de dégâts. Et pourtant, ce sont ces actions que j'ai commises. Mais ma responsabilité à moi, elle est là. Et c'est ça qui est important. Et j'espère bien m'en sortir. Je vais bien m'en sortir aussi avec le temps et le travail, évidemment. Encore une fois, ce n'est pas de jouer à l'autruche. Ce n'est pas d'éviter la confrontation.
Absolument.
Parce qu'évidemment, c'est une relation que j'apprécie énormément, mais c'est un aspect qui est très toxique à notre relation. J'ai simplement décidé de respecter, encore une fois, on parle dans le podcast de relations toxiques. Cette fois, c'est familial. J'ai simplement décidé, lui comme moi, on a mis nos limites chacun de notre côté. Maintenant, est-ce qu'il y a du travail à faire pour se rejoindre éventuellement? C'est sûr et certain, et on le fait. Et est-ce que c'est facile? Bien sûr que non. Si toutes les relations, les comportements toxiques étaient faciles à régler, on s'en
bat pas. Parfois, c'est nécessaire. Parfois, il y a besoin de cette séparation-là, surtout dans une relation familiale. Puis moi, c'est ce que j'ai fait aussi à un moment donné. J'ai eu besoin de mettre une pause, un éloignement avec une relation toxique. Pour après ça, OK, ça a plani les choses, puis on peut se reparler ou faire le chemin l'un vers l'autre, etc. Puis, merci, Tommy. Là, on arrive bientôt à la fin du podcast, mais avant qu'on arrête ça, moi, je veux savoir si tu peux décrire en quelques mots, tu sais, on a parlé tout à l'heure des impacts négatifs, des désavantages, en fait, d'avoir une relation toxique, à comportement toxique avec ta mère, ben, ça crée tout le reste, le manque de confiance, etc. etc. On ne veut pas revenir là-dessus, c'est le passé. Qu'est-ce que tu dirais que ça a créé de beau chez toi? Cette relation avec ta mère, pour finir, qu'est-ce que ça a créé de beau?
Je résumerais ça en... En fait, je vais devoir l'expliquer, parce que même si je l'ai dit demain, mais je suis le héros de ma propre histoire. Mm-hmm. C'est mon chapeau, celui que j'ai décidé de porter. J'ai porté dans ma vie l'intimidateur, la victime. Intimidateur, victime, le bourreau. Mais j'ai surtout choisi de devenir le héros de ma propre histoire. Ça, c'est le chapeau que j'ai décidé de porter chaque jour. Puis tout comme les héros que je... Moi, je suis un grand amateur d'anime et de manga. Pour moi, c'est là-dedans que je fais moi. La plupart de mon développement personnel, c'est pas au travers seulement des romans ou des autobiographies, c'est dans les mangas. Et donc, je vais chercher mon développement personnel au travers de tout ça. Et le héros de ma propre histoire, pour moi, ça parle beaucoup. Parce que tout comme les héros, j'ai moppé. Je vais me confronter à des ennemis plus grands que moi-même. mais ce n'est pas seul que je vais y arriver, par contre. Parfois, oui, mais j'ai aussi besoin des gens autour de moi. Puis ma mère, même si j'ai perdu ce lien-là il y a longtemps, bien aujourd'hui, je suis entouré d'une famille. J'ai ma conjointe, elle a sa fille, j'ai mon fils, on forme une belle famille unie. J'espère qu'on va être comme ça toute notre vie encore. Je suis entouré de gens que j'aime. Et tout ça, c'est parce qu'elle, elle a commis des erreurs qui m'ont énormément appris aujourd'hui. Et donc, tout ce qui a découlé de ma vie, que ce soit la violence physique, psychologique, toutes les relations toxiques que j'ai eues, ont tous quelque chose d'important. Puis si tu te rejoins un tant soit peu dans ce que je dis là, dis-toi une chose. C'est incroyable la mine d'or que tu es parce que tu es vraiment le héros de ta propre histoire. À toi de choisir quelle est ton histoire. À toi d'être plus fort que ce que tu as vécu parce que sérieusement, tu es plus fort. Puis j'ai remarqué une chose, plus tu as vécu, plus tu as d'amour à donner. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir tellement d'amour à donner. C'est merveilleux. Laisse-le sortir, exact. Donne de l'amour. Puis à force de semer de l'amour autour de toi, comme une graine que tu sèmes, si toi-même, tu n'arrives plus à te voir dans ces relations-là parce que tu as tellement souffert, puis tu te dis, je ne peux plus avoir d'amour à donner, sème de l'amour autour de toi. Merci. C'est un simple merci, ça n'a pas besoin d'être énorme. Un merci, c'est beau tes cheveux aujourd'hui. Sème tranquillement des graines d'amour comme ça, puis de bonheur. Puis la perception des gens va finir par t'atteindre. Puis un jour, tu vas être capable de te regarder toi aussi dans le miroir, puis de voir cette part d'ombre-là, puis de dire, wow, toutes ces années-là, c'était moi, et c'est encore moi aujourd'hui, et c'est moi demain encore. Maintenant, qu'est-ce qui m'attend? Voici le prochain chapitre de mon histoire. C'est comme ça que tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, je le vois. Le chapeau, être le héros de sa propre histoire, c'est exactement comme ça que je le vois. Puis si un jour, je veux que mes enfants retiennent quelque chose de ma vie, j'espère que ce sera ce moment-là où papa n'aura pas toujours été le plus fort, ni le plus parfait, ou maman non plus, parce que ma conjointe est extraordinaire. Je parle de moi, mais je pourrais faire un podcast sur ma conjointe.
Elle va être contente d'entendre l'épisode. En tout cas, tu dis des beaux mots sur elle.
Oui, non, j'en ai pas fait une longue mention sur la suite de l'après de ma relation aujourd'hui, une fois que c'est guéri, mais c'est grâce à elle, si elle m'a ouvert les yeux, si elle m'a appris à plus faire l'autruche. C'est tout, ça passe. Il y a tellement de travail derrière tout ça, il y en a encore beaucoup. Mais je l'ai dit, je suis entouré. Je suis peut-être la roue de ma propre histoire, mais je n'y arrive pas toute seule. C'est parce que je suis drôlement bien entouré.
Exactement. Ah, j'adore ce que tu dis. Je trouve ça vraiment beau. Puis ce que je retiens de l'épisode avec toi, c'est en fait, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie plutôt que de subir des choses qui sont parfois, qui ont fait mal, qui ont été des épreuves. Parce que ça n'enlève rien, encore une fois, la souffrance que tu as vécue enfant, ado, adulte. Mais par contre, c'est comment tu décides de le voir aujourd'hui puis l'impact que ça a dans ta vie aujourd'hui. Ça peut être soit négatif, soit positif. Puis, j'entends beaucoup la responsabilité. Prendre sa responsabilité dans sa vie. C'est ça que je retiens de ce moment-là avec toi. Si je me dis, waouh, Tommy, puis je suis tout à fait comme ça aussi, c'est important de réaliser l'impact qu'on a sur notre vie, la responsabilité qu'on a. Pourquoi on est dans des relations à comportement toxique? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte ces relations-là encore? Quand est-ce qu'on s'arrête, tu vois? Donc, c'est oui, il y a des personnes qui font des actions qui peuvent nous faire mal, mais au final, comme tu l'as dit plusieurs fois dans ton épisode, c'est qui accepte ça? C'est moi, c'est toi, la personne qui écoute. Donc, c'est juste dès qu'on prend conscience de « Hey, mais en fait, j'ai une responsabilité dans cette relation ou dans ce que je vis dans cette relation. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que mon intuition dit, mon feeling? » Parce qu'on ressent, on le sait quand même. Même si c'est très, très, très enfoui sous les mécanismes de défense du déni, de se contenter, etc. Il y a une petite part de nous qui est comme « Hey, pose-toi des questions là, sur ta relation. Comment tu te sens, etc. » Donc, j'ai adoré faire cet épisode. Je te trouve très inspirant. C'est vraiment...
Non, merci. C'est gentil.
T'es vraiment une personne qui a ce que j'adore, puis c'est ce que je voulais à travers cet épisode, c'est l'espoir. L'espoir de se dire, hey, c'est pas parce que j'ai vécu des épreuves dans ma vie que tout le reste de ma vie, ça va être comme ça. C'est pas vrai. Au contraire, les personnes qui ont vécu des épreuves dans leur vie, comme toi, comme moi, puis comme plein, plein d'autres personnes, ça crée la résilience, ça crée la force, ça crée le courage, ça crée le fait de se dire, hey, je suis passée à travers tellement de choses que je sais que là, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi. J'ai toutes les ressources à l'intérieur de moi pour passer au travers des épreuves et de créer du beau à travers ça. Donc, j'ai adoré ça. C'est un véhicule d'espoir que je voulais, tu sais, un message d'espoir que je voulais donner ce soir, c'est de, hey, oui, il y a des relations qui sont difficiles. Oui, il y a des épreuves. Oui, il y a des blessures. Puis, on n'a pas trop parlé des blessures d'ailleurs, mais il y a cette idée de vouloir éradiquer les blessures à l'intérieur de nous. Toi, ça a été, OK, non, je vais transformer ce que je vis à l'intérieur de moi en positif pour être bien dans ma vie avec tes blessures, avec ta vision de la colère, etc. Tu n'as pas changé qui tu es, là. Tu as juste appris à vivre avec qui tu es.
Oui, petit aparté, à travers toutes ces blessures, tout à l'heure, j'ai mentionné que je suis devenu caméléon. Et
oui, c'est vrai.
Il y a eu une étape de ma vie où j'étais très caméléon parce que je n'aimais pas qui j'étais. Et donc, comme je voulais être aimé, j'étais qui tu voulais que je sois pour que tu m'aimes. Et je suis devenu un maître dans ce domaine-là. J'étais aimé de tous et envers et contre eux, même les gens que je détestais, j'étais aimé par eux. Bref, je m'arrangeais pour être aimé si je voulais être aimé. Et encore une fois, il y a eu beaucoup de travail d'acceptation de dire, si on parle de relations, je vais terminer là-dessus parce que c'est tellement important pour moi. J'ai des proches, des amis à moi qui se demandent pourquoi ça finit toujours par péter les relations. C'est parce que tu es caméléon à la base.
Oui,
à la base, clair. Tu présentes la meilleure facette de moi. Si je peux vous présenter la meilleure facette de Tommy, vous allez capoter un soir, on va triper solide. Mais je vais me fourvoyer un moment donné. À un moment donné, vous allez voir que il y a quelque chose de pas toujours incroyable là, chez Tommy. Mais si vous présentez qui vous êtes sincèrement, vous êtes intègre, le mot c'est intégrité, si vous présentez la vraie version de vous-même, il n'y aura pas de cachotterie, mais il faut se connaître. Puis j'en ai parlé là-dessus. Exactement. Connaissez vos démons, vos blessures, c'est super important, il y a beaucoup de travail là-dedans. Mais à partir du moment où vous vous connaissez, si vous présentez qui vous êtes sans cachotterie, vous l'acceptez, il y a beaucoup d'acceptation, pas de refus, de l'acceptation dans les bons comme les mauvais, quand vous allez être en relation, vous ne serez pas surpris de vous faire prendre dans un coin par un de vos défauts en faisant dire « on sait bien tout de même, moi je le sais, il faut que je travaille là-dessus ». Ça ne fera pas de peine. Je le sais, il faut que je travaille là-dessus, je le sais, je te demande pardon, je vais travailler là-dessus, je sais que je t'ai fait de la peine. Alors, c'est tellement différent. Ben non, c'est à toi de faire ça, parce que tu refuses d'admettre. Donc, présentez la vraie version de vous-même, pas la meilleure facette. Évidemment, personne ne présente sa pire facette. On ne l'aime pas, celle-là. Présentez pas votre meilleure facette. Présentez-vous sous votre vrai jour. De toute façon, on va vous aimer pour qui vous êtes et pas pour ce que vous voudriez être.
Mais tu vas gagner du temps, en fait. C'est de gagner du temps. Parce que
il y aura des gens qui t'aiment pour qui tu es.
C'est ça. Si tu montes une fausse image de toi à une personne, sois pas étonné que dans 6 mois, 1 an, elle dise « Mais comment ça? Je comprends pas. C'est quoi le décalage entre la personne que tu m'as présentée il y a 6 mois versus ce que je vois aujourd'hui? » Parce qu'à un moment donné, on peut pas maintenir le masque trop longtemps. Il va y avoir des traits naturels qui ressortent. Donc, de s'assumer tout de suite comme on est, c'est là que tu as plus de chances d'attirer une personne qui va t'aimer pour qui tu es. Puis aussi, d'assumer, OK, ça se peut que parfois, j'ai un côté abandonné, puis j'ai peur de te perdre. Ça se peut que parfois, ça va ressortir. Il va cheminer
avec toi à partir de ce chemin-là.
Exactement. Et dans ce que tu dis, c'est l'humilité, en fait, qui résonne pour moi. C'est d'avoir l'humilité d'accepter ces zones d'ombre puis ces zones de lumière. Et mais on est tous humains, on a tous des zones d'ombre, on a tous des zones de lumière, donc c'est important d'accepter ça, c'est de se dire, ben c'est vrai que moi, la colère, c'est mon émotion qui va ressortir le plus fort. C'est vrai que je suis abandonnique, puis que l'abandonnique peut amener la jalousie, la peur de perdre qui est viscérale. Parfois, ça va peut-être ressurgir, mais c'est qu'est-ce que je fais quand ça ressurgit? Comment je réagis face à ma blessure d'abandon? Ça, moi, ça a été un game changer dans ma vie. Plutôt que d'éradiquer ma blessure d'abandon que je ne pouvais pas du tout éradiquer parce que ça fait partie de moi, je me suis dit, je vais apprendre à travailler avec. Puis ça m'a demandé de l'humilité parce qu'un jour, je me suis dit, tu sais, on diminue, je ne sais pas toi si tu as fait ça, mais moi, je me suis dit, moi, je suis un tout petit peu abandonnée, un tout petit peu. Je n'ai pas trop d'abandonnée que moi. Puis un jour, j'ai été confrontée à me dire, il faut que j'accepte que je suis une abandonnée. Il faut que j'accepte que moi, j'ai peur de perdre l'autre. En acceptant, encore une fois, je me suis dit, maintenant que j'accepte, que c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, je me suis développé plein de mécanismes de protection qui fait que j'ai travaillé conjointement avec mon mari. Puis qui fait que des fois, je le sens, j'ai ma blessure d'abandon qui se réveille. Puis il le sait, il m'accompagne là-dedans. Et c'est plus tourné contre lui, c'est on travaille ça ensemble. Donc déjà, d'accepter puis d'avoir un partenaire justement qui aide aussi, on le travaille ensemble plutôt que toi tout seul dans ton coin à gérer ton abandonnique là. Parce qu'en général, c'est encore pire.
Tu es seul tout seul.
Exactement, mais j'ai adoré ça, Tommy. C'était vraiment un super bel épisode. J'ai hâte que les auditeurs l'entendent. Puis merci, merci de ta transparence. Merci de t'être livré comme ça. Je trouve ça vraiment beau. J'étais très touchée de t'entendre dans tout ce que tu disais, autant dans la partie difficile de tes relations, autant aussi dans le côté de « wow, ce que tu es devenu grâce à ça, grâce à ce que tu as vécu ». Donc, je te remercie beaucoup. Je te dis à très bientôt. Peut-être qu'on va se revoir dans un autre épisode, qui sait?
Qui sait? Qui sait? Ça me ferait plaisir. Honnêtement, j'ai bien aimé l'expérience. Merci beaucoup. Honnêtement, c'est encore une fois, c'est un honneur. J'ai très hâte de m'auto-entendre dans le podcast.
Exactement, tu vas pouvoir t'écouter.
J'espère sincèrement, si j'ai fait le podcast à la base même, j'espère sincèrement rejoindre ne serait-ce qu'une personne. L'objectif de ce podcast-là, pour moi, va avoir été, je rejoins juste une personne. Envoyez vos commentaires à Anaïs.
Oui.
Moi, sur Facebook, ça ne me dérange pas. Tommy Bouchard, ça va me faire plaisir. Ça va me faire un grand plaisir.
Absolument. Et exactement. Puis, je veux savoir, moi aussi, effectivement, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Qu'est-ce qui t'a rejoint dans l'épisode? Qu'est-ce qui a résonné pour toi? Parce qu'il y a eu plein de bons moments que moi, j'écoutais Tommy. Ça résonnait pour moi. Donc, je suis convaincue que toi aussi. Partagez-moi. Je vais partager à Tommy, mais je veux savoir parce que je vais en faire plus des épisodes comme ça si ça résonne. Je veux vraiment dévoiler des choses puis que les personnes, ça puisse permettre de cheminer et d'avancer vers la vie de rêve qu'ils veulent avoir. Donc, merci Tommy. Comme d'habitude, en attendant, prends soin de toi et on se reparle.